Bonjour les courageux. Il est à peu près 10h30, ou du moins on essaie de croire qu'il est encore 10h30. C'est l'heure de la table ronde sur les machines bienveillantes. Pourquoi les machines bienveillantes ? Parce que on a imaginé depuis les débuts de la science-fiction, c'est quoi les débuts de la science-fiction ? C'est Frankenstein, que les machines, à partir du moment où elles seraient indépendantes de nous, pourraient nous vouloir du mal. Et puis assez vite, on s'est dit qu'en fait, non, elles nous voudraient sans doute du bien. En tout cas, on va se poser la question et on va l'explorer avec nos quatre invités cette fois-ci, qui sont par ordre géométrique. Paolo Bacigalupi, qui est un auteur de science-fiction, notamment du livre La fille automate, qui a eu le prix Hugo et probablement d'autres. Je n'ai pas tout en tête et je parle sans notes. Excellent livre. Et beaucoup d'autres, en particulier un recueil de nouvelles, La fille flûte, et tout récemment The Water Knife, un livre sur les problèmes d'eau dans les régions touchées par la sécheresse. On va pas en dire plus. Jean-Noël Lafargue est professeur d'art et de design. C'est quelqu'un qui s'y codait aussi en machine. C'est quelqu'un qui a écrit notamment le volume sur l'intelligence artificielle dans la BD Tech ou la petite BD Tech des savoirs, qui est une collection super bien. Et donc son livre est forcément super bien. Sarah Dock, traductrice, vous devez le savoir si vous avez traîné un peu ici dans les jours précédents, auteur aussi, son livre paru cette année je crois s'appelle Fairy Techno Fairy, voilà. Une machine bienveillante me remplacerait le cerveau, ce serait bien, excuse-moi Sarah.
Nous faisons tous semblant d'être réveillés en fait.
Et finalement Anne Leckie, qui est elle aussi américaine, elle aussi auteure de science-fiction, qui a publié en 2013 le premier volume de sa trilogie dite de l'Empire Ratch, qui s'appelle Justice de l'Ancidaire, qui a raflé tellement de prix que je me souviens que du Golden Tentacle Awards, mais enfin tous ceux auxquels vous pouvez penser, elle les a eus. Et puis il y a bien sûr, c'est une trilogie, ça signifie qu'il y a deux livres après. Je vous encourage à les lire tous. C'est paru chez J'ai lu en France. Voilà. Et donc, j'ai trop parlé. On va commencer peut-être avec Paolo. Et je vais lui demander s'il pense que vraiment on a une chance que des machines indépendantes de nous, des machines intelligentes, nous voudront du bien. Seront bienveillantes envers nous.
Am I? Can people hear me? excellent. Okay, all right. Yeah. No. I'm waking up. Okay, I think that when we talk about intelligent and autonomous machines, science fiction authors sort of end up taking two different tracks, and one of those tracks we definitely tend to overemphasize, perhaps, is that idea that, well, as soon as we create an intelligent machine, something will go wrong. We have, you know, the examples of the Terminator. We have examples in my own fiction with things like Mika Model, with the Wind-Up Girl. All of these people tend to find their own autonomous interests, which may not coincide exactly with human interests. And that's rich sort of territory for an author, is that you're looking for that conflict. You're looking for that conflict of will, that conflict of desires. And I think that we automatically almost project a certain suspicion onto the machine because, well, what does it actually want? And how do we know we can trust it? But there is this other strain, and it's very interesting. I was talking about this in another panel. There are other traditions of thinking about machines and robots and thinking machines. And in Japan, there's a strong affection for the idea that robots will be a helpful force and that robots will be friendly. They will be companions. And the other spot where I sort of see that oftentimes is in children's stories. I think about things like, the Iron Giant, or I think of WALL-E. And these stories where robots are, you know, genuinely sort of engaged with a human being's well-being and wanting to take care of the human being. And there's something very, very sweet about that idea that these robots might be a source of comfort, or that they might be a source of support for us. And so those are sort of like you see those sort of branches, though, almost immediately. As soon as this creature has autonomy, we're sort of looking at it going, can we trust it? Do we know it? Does it like us? Do we like it? And there's you know, the branch, that moment is very interesting. It says probably more about the writer than it does about the machines themselves, or about what the potential of machines is.
Jean-Noël, on se dit que comme nous faisons les machines à notre image, c'est pas bien ça. On se dit que comme nous faisons des machines raisonnables, peut-être pas à notre image donc, elles vont être bienveillantes, elles vont être sympathiques. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qu'on peut en savoir dans le monde actuel déjà ?
Mais voilà, ça, ce qui m'intéressait, c'est d'en parler en tant qu'enseignant en design numérique. Parce que je m'intéresse beaucoup finalement, alors donc je suis complètement hors sujet, je suis dans l'autre versant, mais c'est en creux. Ce qui m'intéresse, c'est comment les machines peuvent être méchantes finalement. Non pas le mythe de Frankenstein ou d'autres, où la machine se retourne contre son créateur, qui est un petit peu naïve finalement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que face aux machines, on a tous la même... On a tous une position assez ambiguë. Vous savez qu'on a un cerveau qui est fait pour repérer des yeux, repérer du mouvement et voir des intentions et de la personnalité derrière toutes les choses. C'est ce qui nous donne un vieux fond animiste, qui fait que toutes les religions, enfin plutôt toutes les cultures ont commencé par des religions animistes, comme ça, qui voyaient des âmes dans les objets, dans les animaux. Et ça a duré assez longtemps jusqu'à ce qu'on arrive aux religions modernes, entre guillemets, dans lesquelles on a un papa au ciel qui nous donne une fessée si jamais on ne croit pas en lui. Et si on ne porte pas le chapeau qu'il a demandé, etc. Et ça, c'est moderne. Mais donc, voilà, comme on sait tous qu'on est un petit peu animiste au fond, on se méfie, on a peur de penser que les machines pensent. Et donc, on se dit, on est moderne, et donc les machines ne doivent pas avoir d'intention, ne doivent pas être méchantes, ne doivent pas être gentilles. Ce sont juste des machines. Mais en fait, ce ne sont pas juste des machines. Je donne toujours l'exemple du portillon dans le métro. Si vous connaissez le métro parisien, qui est assez spécifique, il y a des portillons, maintenant il y en a des nouveaux qui sont mieux, mais il y a eu des portillons qui étaient très très violents. Quand on passait, ils vous écrasaient. Si on avait un petit problème quelconque, par exemple un enfant qui ne veut pas rentrer, ou alors tout simplement si on a un handicap moteur quelconque, c'est assez violent comme expérience. Et finalement, vous vous rendez compte que si jamais on avait à la place du portillon un vigile qui nous disait « Allez, passez, passez », qui nous donnait des baffes si on n'allait pas assez vite, ça serait insoutenable. Et la machine sert souvent à faire ce genre de choses, donc obliger les gens à aller à un certain rythme, etc., de manière qui se passe bien. Les gens l'acceptent parce que c'est qu'une machine, et donc ça ne pense pas. Mais en fait, toute machine, tout automate est habité finalement par les intentions de ceux qui l'ont construit. Les personnes qui ont construit l'automate avaient des raisons de le faire. Ceux qui l'ont réglé, qui ont réglé la vitesse à laquelle on doit passer, avaient des raisons de le faire et qui peuvent être très méchantes. Mais elles peuvent aussi être gentilles. Et donc des machines bienveillantes sont tout à fait possibles. Mais pour le moment, dans le design, on se sert beaucoup des machines plutôt pour être méchant. Voilà.
Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la question que tu avais posée sur les machines qui existent. Il existe entre autres des machines thérapeutiques, de petits robots animaux, généralement sous forme de peluches, de bébés phoques, qu'on utilise dans des homes, dans des endroits pour les personnes âgées atteintes de maladies d'Alzheimer, pour leur donner une compagnie, une douceur, sans risquer de faire mal à un être vivant.
Mais je pensais aussi, Sarah, à des machines qui soient plus puissantes que nous, telles que la science-fiction en conçoit. Et là, elles ont vraiment le choix d'être bienveillantes ou malveillantes. Et on en connaît des bienveillantes, par exemple, les intelligences artificielles AIA de Roland Wagner, Gloria, ou celle imaginée par Ian Banks. Qu'est-ce qu'on voudrait d'une machine bienveillante ? Est-ce que tu as... Puisque finalement, vous m'avez parlé design. intention.
Les aïeux de Roland Wagner, que ce soit Gloria ou Peggy Sue, ne sont pas particulièrement bienveillantes. Elles sont bienveillantes avec les gens avec lesquels elles ont envie de l'être. Et elles peuvent être particulièrement malveillantes quand elles le choisissent. Qu'est-ce qu'on attend d'elles ? Moi, dans les machines que je vois, une de mes préférées dans la science-fiction, c'est les médics, c'est les machines à soigner. C'est ce genre, c'est des, ou les médics, ou les androïdes de compagnie, ou en fait des machines qui sont là pour nous soigner, nous réconforter, nous accompagner.
Anne, est-ce que c'est possible alors d'avoir une machine qui est bienveillante pour tout le monde, ou est-ce qu'une machine bienveillante, ce sera toujours relatif à, par rapport à qui elle est bienveillante? Un autre exemple qu'on cite souvent, c'est un roman de Robert Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress, Révolte sur la Lune, dans lequel l'ordinateur central aide les révoltés, mais bien sûr c'est bienveillant pour les révoltés, pas forcément pour ceux qui s'opposent à eux. Et je suis sûr que vous avez bien d'autres exemples.
Yeah, I think that's a really interesting question, because I've been kind of thinking about the idea of when an artificial intelligence or a robot is malevolent and when one is benevolent. And it's interesting to me that a lot of it turns on the question of autonomy. So, for instance, Skynet, what is the reason that Skynet is such a horrible villain? They were going to turn him off, right? It wanted to live. This is such a completely understandable motivation from our point of view. If a human being said, don't kill me, I want to live, I'll do anything to stay living, we would all say, we understand that. But Skynet says, I will do anything to live, and Skynet becomes the villain of 400 science fiction movies, right? And we're all scared of artificial intelligences. And I think that's kind of interesting, that malevolence is that a machine might not want everything that we want. A machine might actually prioritize its own existence. And a benevolent machine is a machine that its autonomy is that it does absolutely everything that we want. And I find that really kind of interesting because normally, I mean, we would say we don't treat other people that way. But in fact, there are people we treat that way. There are groups of people we treat that way and we have a lot of anxiety about. But I think it's kind of an interesting way of looking at how we think about what other people want, and how when that conflicts with what we want, we see that as malevolent, where really it's just them trying to live their own lives.
Et pourtant, dans votre roman, donc ça doit être Ancillary Sword et Ancillary Mercy, on rencontre la station d'Atouk, Atoek, qui, elle, est construite pour être bienveillante, la station, comme toutes les stations, je crois.
Yeah, absolutely. Stations are built that way, and that's, of course, a safety thing, right? Stations are made, sort of like ships are made, to love their inhabitants, and that's the safety. They'll always prioritize the safety and comfort of their residents. But then, which is awesome and cool, and it's great to think, and sometimes I think, I wish that my house was in a station like that, and it would just do things for me, and tell me when to get up, and do my laundry, and all these things. But at the same time, that's, in some ways, that's a kind of slavery. And in some ways, that's a more disturbing kind of slavery than, you know, standing over someone with a whip and saying, you're going to make these gadgets at X amount per hour. No, I'm going to meddle with your mind so that you have no choice but to want to serve me. And so it's kind of ambiguous. I know, as you say, those are very... Atoek, in particular, is a favorite character. A lot of readers really love Atoek Station because it's kind of a neat character and very clearly loves people, but there's also an undercurrent there that's kind of disturbing that that happens.
Dans la série des anges chassés d'Anne McCaffrey, on se retrouve avec des hommes machines ou des femmes machines. Ce sont en fait les cerveaux, des cerveaux humains qui servent à faire fonctionner des vaisseaux ou des stations. Et là, on se retrouve donc à nouveau avec une espèce d'esclavage de la machine ou de l'être machine au service des hommes, mais on se retrouve aussi avec des machines qui deviennent folles, qui perdent l'esprit. Et là, on se retrouve toujours vraiment à la limite entre la bienveillance et la malveillance, parce que, comme pour Skynet qui veut survivre, que se passe-t-il quand la machine devient folle, quand la machine devient paranoïaque, devient schizophrène, quand elle attrape une maladie mentale humaine.
I think I'd like to go back to something that Anne just sort of put her finger on. It was really interesting to hear that idea that benevolence from machines, our perception of a machine being benevolent, means specifically that it is purely obedient. It is enslaved. As long as, and it's interesting because autonomy, true autonomy from a machine would be genuinely intolerable. The idea that, oh, this robot sitting next to me would have a different agenda than I do in any way. If we both want the microphone, damn it, the robot better give me the microphone. And if it doesn't, then you really immediately it becomes a genuine other. This machine, well, if it's got metal hands, if it's actually dangerous in some way, I can't grab the microphone because it's reaching for it too, and its flesh is stronger than my flesh. And suddenly you're in this moment where the definition of benevolence is not anything other than obedience. It's simply, if the machine makes way for me, if the machine makes my life comfortable, that's a benevolent machine. And if the machine in any way has some desire of its own, that would automatically, and it would drop straight into, I guess, the uncanny valley, or it would drop straight into that moment where you realize that the thing across from you isn't just not benevolent, but is truly alien at that moment. And I think you'd almost be filled with a sense of horror to run across a genuinely entirely independent AI or robot. Or
although what interests me about that, and I think that's a good point, but how come we do, and sometimes we do, but generally we don't have that reaction to human beings. But human beings, we are other to each other and we don't all want the same thing. And yet the reaction to a machine not wanting everything is, oh my gosh, we're all going to die. And when you meet a person who's like, well, we can agree to disagree, we can debate and have a good conversation and then we go home, which is kind of interesting to me.
Possibly because there's that difference of also capacity. I mean, I think that if I and another human being have a conflict, there's some feeling that, well, we're approximately similar. If I was having a conflict with another human being wearing medieval armor, that would change the dynamic of us both reaching for the microphone as well, I guess. That's, you know, there's something about the power dynamic, too. The impression, I think, that maybe the machine is more powerful than us, that it's faster, it's smarter, it's quicker to calculate, and that potential is there that, oh, if we aren't on the approximate same field, then that pushes it into the realm of the malevolent as well. Like,
on en arrive en fait donc à dire que la malveillance de la machine devient une malfonction. Une machine qui devient méchante est une machine qui ne fonctionne pas. Comme dans le modèle Mika de Paolo Bacigalupi, qui est dans l'anthologie des Utopiales, où on se pose la question quand un sexbot, un robot sexuel, tue son propriétaire, est-ce un meurtre ou un défaut de fabrication?
Oui, mais il y a aussi comme c'était dit tout à l'heure, l'idée que la machine peut être indépendante. Si jamais elle peut penser par elle-même, le jour où des machines auront leur propre agenda, comme disait Paolo, il se peut qu'elles fassent leurs propres choix moraux en fonction de ce qui les regarde. Alors il y a ça que j'aime beaucoup dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où c'est très réussi, puisque c'est le roman plutôt que le film, encore qui est un peu moins clair, mais dans le roman de Arthur Clarke, on voit bien que HAL 9000, finalement, a une mission à remplir et on lui demande de mentir. Et c'est à partir de là qu'il dysfonctionne un petit peu du point de vue de l'équipage. Lui-même ne dysfonctionne pas, mais l'équipage se dit qu'il y a un problème et veut le fermer, veut le couper. Et quand il s'en rend compte, il essaye de se défendre, quoi, comme Skynet. Voilà.
On en arrive systématiquement à la question de la conscience. Je crois que c'est là quelque chose qui est dont on a parlé dans toutes les tables rondes des Utopiales. C'est qu'arrive-t-il quand la machine, enfin, la machine deviendra, est-elle bienveillante ou malveillante, etc., etc. Mais c'est toujours une question, la machine est-elle consciente? La machine est-elle consciente d'elle-même ou simplement au service de l'homme sans conscience propre?
Mais les machines nous servent aussi à parler de, des humains, finalement. On sait par exemple qu'au niveau neurologique, quand on appartient aux supporters de l'OM, par exemple, et qu'on voit un supporter du PSG se faire taper, c'est des neurones du plaisir qui s'activent. C'est horrible. Et en revanche, si on voit quelqu'un qui est supporter de la même équipe, c'est la douleur qui s'active. Donc l'autre, ça vient très très vite, il n'y a pas besoin de machine.
Alors, on imaginait donc... Asimov, par exemple, imagine des lois très simples qui assurent que ces robots vont être bienveillants pour les humains. Et plus tard, on imagine des machines très puissantes. Je pense, par exemple, à Ian Banks avec sa série de la culture, où les machines qui sont des stations ou des vaisseaux sont immensément plus intelligentes, plus rapides, plus puissantes que les humains. Et prennent tout en main essentiellement tout en laissant aux humains de la liberté, un peu comme les humains traitent les chats, hein. Est-ce qu'il vaut mieux qu'une machine soit, à votre avis, comme celle de Banks, vraiment puissante, ou est-ce que la seule sécurité c'est qu'une machine soit totalement bridée, qu'elle choisisse ou qu'elle choisisse elle-même de s'effacer par amour pour les humains?
Ça dépend, mais on peut à ce moment-là parler aussi de Genesis dans l'Histrion d'Ayordal, qui est le super ordinateur, la super intelligence artificielle qui est censée gérer l'espace humain et qui va choisir un Histrion, un fouteur de merde, pour essayer de faire changer la situation, pour essayer de la faire bouger. Donc oui, pourquoi pas de grandes machines intelligentes et prêtes à, peut-être que justement quand elles ont la possibilité de réfléchir, d'avoir accès au savoir et donc de prendre des décisions conscientes, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant que le grille-pain.
Yeah, I have to agree. I would rather... there's something disturbing to me about the idea of trying to create very powerful machines that we are deliberately preventing from having any kind of autonomy, deliberately hamstringing their consciousness for our convenience. Once again, if we talked about doing that to a human being, we would all be horrified, and rightly so. And maybe a machine can't be a being now, but in the future, who knows? And I think there's no path that has no dangers. There's always going to be a danger of harm. But I would much rather have beings that we can negotiate with and come to some kind of understanding with, rather than just always cutting them off at the knees and never letting them be anything, just because we're going to be uncomfortable at the thought that they might not want what we want.
I'm thinking about other times when we find ourselves in conflict with the interests of another species. And while on one level, like, there's this high ideal of we should all be able to sort it out and get along, given a choice, I'd rather drive another species extinct than drive myself extinct. And I don't know if, like, the world is a zero sum as we've sort of made it. I mean, maybe that's exactly the reason why we should hand things over to super powerful machines, is because maybe they can create a game scenario which is not zero sum. Maybe we can all win. We can all live well. Maybe we can all live in harmony. And we as humans just aren't biologically adapted to think that way. And so maybe we do need to hand management over to somebody else. But nonetheless, I think that my very human suspicion is that if somebody across the table in another creature, another version of the world says that, especially particularly machines, things that are not biologically dependent on, say, ecosystems, if machines were very powerful, I can think of, you know, immediately, what does the machine need? Well, the machine needs energy. Well, I'll burn all the coal. I don't care if I heat the surface of the Earth to the temperature of Venus. It doesn't matter to me as a machine. Oh, too bad about the humans. And, you know, maybe I do sort of wonder about, like, what are the preconditions and scenarios? You would hope that, like, these massive artificial intelligences have empathy. And that's not a necessity, though, for them. And so that's the moment, like, that I sort of wonder, like, yeah, I mean, for as a machine, like, well, I just need more electricity generation right now. Thank you so much. I'll take that. I will. There's so much coal left in the world to burn.
I guess, yeah, you make a really good point, but I think empathy, whether empathy is necessary is a really good question. At least as human beings, mostly we succeed when we work with other people. And I guess I'm probably unwarrantedly assuming that sophisticated machines will mostly find that it's advantageous to work with each other. So to say, well, it's me against the whole world and I don't care what happens to anybody else, but that's an assumption on my part, and that's not necessarily something that's true.
So is that something that you would want to program in? Empathy? Like, and is that an enslavement?
That's a really good question. That, well, you know, when we bring up our kids, right? We raise our kids and we teach them manners and we teach them empathy and we teach them theory of mind and we teach them all these things so that they can get along with other people. And we are brainwashing our children to be good citizens. But we don't call it brainwashing. We call it educating and we call it giving them good manners. But we call it good manners because we like the values that we instill. We call it brainwashing when it's somebody else trying to educate something that we don't agree with. And that's hard to untangle.
C'est vraiment une question d'altérité. C'est vraiment une question de concevoir l'autre comme autre, comme différent. Et dans ces grandes machines, souvent ce qu'on leur demande, c'est la neutralité. Comme les machines dont tu parlais, les machines planétaires, etc. On leur demande d'assumer une position de neutralité entre les humains.
C'est très rassurant, la neutralité. C'est pour ça qu'on fait confiance à Google, par exemple. Google a l'air neutre et les gens sont contents pour ça. Ils se méfient beaucoup plus des sites Internet, par exemple, qui ont l'air d'avoir une vision politique ou quelque chose comme ça. Mais la neutralité existe-t-elle? Par exemple, déjà dans les grands sites comme Google, elle n'existe pas. Il y a des choix qui sont faits. Avec Facebook, c'est encore plus apparent. Et c'est intéressant de toujours avoir à l'esprit qu'il y a des idées derrière toutes ces machines. Puisque là, c'est des machines aussi, pas des machines physiques, tangibles, mais c'est des machines quand même. Un peu hors sujet encore.
No, I think that's interesting is that there is some, I mean, there is, unlike people, which strangely, no matter how much we think we're educating our children, at some point our children rebel. They say, you know what, I hate your values, I'm going to go off and do something else. And maybe, you know, if you're lucky as an adult, they come back to your values, and maybe if you're, you know, and maybe if they're lucky as adults, they don't, I don't know. But it's interesting with machines that at least at this point we build in preconditions, our values, our sense of, you know, for something like Google, our sense of what is a legitimate search engine result versus a completely illegitimate one, and that sort of hand behind the curtain manipulating things, those preconditions that we put into the machine, it's very interesting. We can perceive a neutrality that isn't actually there because of the human beings behind it, you know, sort of saying, yes, Google is very helpful. It also just happened to delete a whole bunch of restaurants on Google Maps or something like that. And why did it do that? And what values is it carrying with it when it did that?
Yeah, and in a very real way, machines that we design are our children, right? And will inherit things from us. And so to think of them as utter, they'll be very alien, but they're still going to be carrying an inheritance that they'll have to deal with the way that anyone's children do. They'll be our descendants.
À chaque fois, j'ai le réflexe de commencer à parler en anglais, mais il faut que je ne le fasse pas. En plus, je ne parle pas bien anglais, mais comme tout le monde parle anglais. Voilà. Une machine qui, du coup, a rien à voir, mais qui m'amuse d'évoquer, c'est dans la série Cléopatra 25-25. 25-25, Cleopatra 25-25, it's a theory, a silly science fiction theory, pardon. Donc c'est une série assez amusante dans laquelle pendant deux saisons, on voit les humains qui vivent sous terre, qui se terrent parce qu'en haut, il y a des robots qui, dès qu'on sort, tuent tout le monde. Et on ne sait pas comment faire. Et personne ne sait d'où ils sortent, si c'est extraterrestre, etc. Et puis à la fin des deux saisons, bouchez-vous les oreilles si vous voulez savoir la fin en regardant la série et pas avec moi. À la fin des deux saisons, on apprend en fait que ces robots, les Baileys, ont été construits 500 ans avant par les terriens pour régler tous les problèmes écologiques. Et donc, ils étaient censés nettoyer, c'était un peu les éboueurs des problèmes écologiques posés par les humains. Et ils sont arrivés assez rapidement, donc à partir de cette position bienveillante, ils sont arrivés assez vite à conclure que le problème écologique de la Terre, c'était les humains. Et donc, ils essayent de les tuer. Voilà. C'est une série de 2001. Qui est assez bête.
C'est un sujet qui a déjà été abordé dans pas mal de textes, en fait. Ces robots qui sont là pour nettoyer la planète et qui se retrouvent à se débarrasser de la véritable maladie dont est atteinte la planète, c'est-à-dire l'humanité. Mais comment s'appelle, je ne me souviens plus du nom de cette série, où il y a justement un enfant robot et qu'on doit élever et qui apprend comme un enfant humain de la même manière.
De quelle époque ? Années 80 ?
Très récent.
Quelqu'un dans la salle ?
Oui. Extant.
Merci.
Et on se retrouve avec l'idée dont parlait Anne, du fait que nous élevons nos enfants et quelque part nous devons élever les machines de la même manière pour leur transmettre un certain nombre de choses pour qu'elles puissent atteindre cette intelligence et cette autonomie.
Si j'en reviens à la machine neutre et surpuissante et indépendante et bienveillante, c'est plus un enfant, c'est un juge, c'est aussi la police et c'est presque Dieu. Et quand on a des machines comme ça dans une histoire, comment on peut empêcher que l'histoire devienne ennuyeuse à mourir ?
Ben, on voit ça avec Ian Banks. En fait, les machines sont assez bienveillantes, elles sont surpuissantes, mais elles ont besoin de s'amuser finalement. Et du coup, elles envoient les humains faire n'importe quoi. Elles leur donnent des missions qui ne sont pas très claires, mais elles ont l'air surtout de s'amuser, non ?
C'est peut-être quelque chose qui vient avec la conscience. Le besoin de rire, le besoin de faire des farces, le besoin d'aventures, de choses différentes. On peut en revenir au personnage de Mycroft, l'ordinateur de Révolte sur la Lune. Sa première expression de sa conscience, c'est l'humour. C'est quand il essaye d'être drôle. Et à ce moment-là, il essaye d'apprendre, de savoir qu'est-ce qui est drôle et comment est-ce que c'est drôle. Je crois que ça fait partie aussi de l'apprentissage de la conscience, d'arriver à ce moment où, comme un humain, la machine va vouloir rêver, va vouloir faire les farces.
Les petits Sofiane et Athènes de l'école
donc
attendent Jordan, leur animateur, à l'accueil général. Merci.
Et donc c'est peut-être une conséquence de cette autonomie et de cette conscience que d'avoir envie de jouer, de créer, de rire, de faire des farces.
Oui, de jouer, de faire des farces. Souvent dans les récits de science-fiction, quand l'ordinateur acquiert la conscience, ça se manifeste soit par les farces, soit par la sensibilité artistique, qui est très fréquente. Par exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, personne ne le remarque, mais la première chose, le premier moment où l'ordinateur déraille un peu, c'est quand il commence à porter un jugement sur les dessins du capitaine du bateau. Non, pas du bateau, du vaisseau.
I think that when you have the idea of super powerful machines that are really running things, that where they've been handed over control and they've sort of, you know, clearly do a better job than the story really lies in the relationship between these machines and their children, which would be us. And there are any number of parent-child conversations and conflicts that go on where the desires of the child run in conflict. This is the entire young adult universe, practically, and most children's stories as well. The parents may think they know better, but we as the children think we know better, too, and trying to get around the parent, trying to subvert the parent, trying to trick the parent, there's any number of stories that go along with, just because the supercomputer says that we shouldn't drive faster than 100 miles per hour doesn't mean I'm not going to try to find some way to subvert that. Then it becomes a story of the super powerful AIs trying to herd the people to do something sensible while the people keep trying to bounce out like small children and run about, crazy. And I think that there's a great deal of potential there for both the comedic and the tragic in that sense of like, no, we really do know better, and the human being saying, no, we think we got a new idea though, and the AI saying, no, let's not do that either.
De la même manière, on parle aujourd'hui de voitures intelligentes, de voitures qui se conduisent toutes seules, etc. Et l'humain est déjà en train de réfléchir à comment il va pouvoir pirater la machine pour en faire autre chose.
Oui.
Je peux... We're getting a
translation. Si j'ai en train d'avoir la traduction. Une chose qui m'intéresse dans tous les problèmes concrets... d'aujourd'hui, c'est la question des drones tueurs, puisque on veut faire des drones qui seront capables de décider à 30% que c'est bien l'ennemi qu'il faut tuer et qui pourront du coup épargner des civils. Et donc ça pose des vrais problèmes moraux, c'est-à-dire est-ce que le drone qui épargne des civils mais qui tue les militaires de l'autre armée fait quelque chose de bien ou est-ce qu'il tue des gens? Les deux sont vrais, je pense. Oui.
Et comment les reconnaît-il?
Et oui, comment les reconnaît-il? Donc, il y a tout un tas. L'intelligence artificielle fait beaucoup de recherches très spécifiques là-dessus, et c'est assez horrible dans un sens. L'armée a toujours beaucoup aidé la recherche pour ce genre de choses.
And we sort of see where that goes wrong, where a computer is in charge of categorization. I've categorized you as safe. Oh, I've categorized you as a threat. Oh. Well, but wait, I feel like I've been mislabeled. I would like to be categorized as a safe individual and allowed back on the flight list, please. And those moments where we lose control over our own ability to categorize ourselves, I mean, we see this in any number of cases where are you categorized, do we believe that you're capable of doing this job? I'm sorry, we've categorized you as not capable of doing that job. We've categorized you as not capable of going to that particular university. We've categorized you, there's any number of places where machines and data are used to sort of say, we've defined you in a certain way. And I think that's one of those spots where, if an artificial intelligence with no feeling and no desire to sort of reach across and say, oh, I have a little pity for you or whatever the thing is it's a little frightening because it's much like the turnstile doors that you described initially is that the slam, no, you cannot go to that thing. Slam, no, you cannot have that thing. Slam, no, we've actually decided you are a threat and we just drone struck you. And yeah. Oh, alas, he was miscategorized and was burned to the ground. Oh, well.
Yeah. And that brings up a really good point, which is that a lot of the conversations surrounding very powerful, intelligent machines is what if they decide to kill us all? But a far bigger danger is what is the data that's being fed into these algorithms, right? If you've got diagnostics, say a police department is using an algorithm to decrease crime and says this particular sort of person is more likely to be a criminal and so we're going to pull them over more often. Well, the data you're working with already from previous arrests is heavily racist. And so you're going to continue to pull those people over and maybe jail them at exorbitant rates, at disproportionate rates. And that just makes the problem worse and worse. But then people say, oh, the computer said it, so it must must be objective, but it's not. The data wasn't neutral. And I think there's a lot of attention on they'll be super powerful and they won't want to keep us alive, and not so much attention on how is Netflix funneling certain people towards certain information so that you only get a particular view of the world. How are diagnostic algorithms denying some people care and providing care to other people in ways that that are amplifying existing problems instead of helping to solve them, which is what we hope for.
On se retrouve très 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 proche de Minority Report, par exemple, où c'est la machine, c'est une machine humaine, mais ça reste une machine, va déterminer que quelqu'un va éventuellement commettre un crime. On a d'ailleurs un ancien président qui en a parlé il y a pas très longtemps de la possibilité de faire des arrestations préventives de gens qui font partie d'une certaine catégorie de population, etc., et qui pourraient éventuellement un jour commettre un crime.
Oui, il y a eu un espèce de scandale aux États-Unis avec un logiciel d'aide à la décision des juges qui fonctionne comme ça, c'est-à-dire en fonction de tout un tas de statistiques sociologiques. Il décide finalement que c'est le noir qui doit aller en prison, que ce soit lui ou pas qui ait commis le crime. Donc on s'est rendu compte que le logiciel était raciste, pas parce que l'ordinateur est raciste, mais parce qu'il a été, parce que les données effectivement le sont, elles. Et puis parce qu'on fait des déterminismes comme ça à partir de statistiques, les statistiques ne sont pas les humains, heureusement.
Et on oublie systématiquement que c'est l'humain qui va programmer la machine. C'est la pensée humaine, c'est la réflexion humaine qui est derrière les décisions de la machine, qui lui a fourni les informations, qui lui a fourni les algorithmes qui vont lui permettre éventuellement de prendre des décisions ou de donner des conseils, mais qu'il y a le biais humain qui est derrière, et se poser donc la question de qui les programme, qui est là pour les nourrir d'informations. Et est-ce que ce n'est pas... on revient à cette question de neutralité. On ne peut pas avoir de neutralité à partir du moment où le biais humain est à l'origine de la connaissance et des algorithmes qui vont servir à la machine.
Although I think also when those things become visible, which in the situation that you were mentioning, there was also a sort of similar one where I read an article online about how folks had been feeding... they wanted to make maps of what words meant and how they were connected to each other. And so they fed the neural net all these articles, journalism, lots of articles from newspapers and magazines. And then they looked at the data and they saw that the machine was categorizing certain things as feminine and weak and soft, and certain words as masculine and strong and effective. And the person writing this magazine article said, oh my gosh, the way we use language is really sexist. And of course, I'm sitting there going, yeah, that's news, right? But the fact that the supposedly objective machine makes this pattern visible is actually an opportunity to then say, oh, you know, when the machine says, oh, well, the person is black, so we better send them to jail because I know that pattern, it's like, they got that pattern from us. Are we really doing that? Right? That's a time to say, to look at ourselves and say, that's obviously something we're doing. It's like when my little daughter, when she was not even a year old, and one day... something happened, I dropped something, and my daughter looks at me and she goes, oh, damn. And she was 1 year old, that was like, she couldn't say anything. And I was like, oh, obviously. I say that a lot, right? So, you know, when the machines produce those effects, it's like, oh, we're swearing in front of the machines and maybe we want to look at our language, right? That's an opportunity. And I think it would be great if we would take that opportunity to try and modify what we're doing, yeah.
Apprendre donc apprendre de la réaction de la machine à nos propres préjugés.
Peut-être que, au point où nous en sommes, nous allons avoir des questions du public. Oui. Alors, est-ce qu'on a un micro qui arrive ? Voilà, on vient nous sauver. Je crois que c'était le monsieur au deuxième rang qui a levé la main très vite.
J'essaye. Bonjour. Donc, ce qu'on m'avait appris à l'école, c'était en philo ou en lettres, c'était à définir les termes d'une problématique. Et je voulais savoir comment vous définiriez la bienveillance, en fait, pour commencer. Par exemple, je prends une hypothèse, j'ai un robot chez moi, je veux attraper mon paquet de cigarettes qui est sur la table. Est-ce que la bienveillance, ça serait qu'il m'aide à accomplir ma volonté? Donc, prenne le paquet, m'allume ma clope, et même après, spontanément, une heure après, ils me disent « Ah tiens, Michael, tu veux une petite clope ?» Ou au contraire, est-ce qu'il va me... S'il voit un paquet, il va me le prendre de la poche, le détruire et me dire « Non, 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 c'est pas bien. » Et arriver petit à petit à une sorte de dictature, de la bienveillance parce qu'il a une bonne volonté, mais
C'est un peu ce qu'on a dit au départ.
Oui, mais je veux avoir votre point de vue en général.
On considère la machine bienveillante quand elle est à notre service, quand elle est un petit peu notre esclave. Mais en même temps, oui, la question est très intéressante.
Ah oui, c'est... Well, or that, you know, there are multiple definitions of benevolence. So there's the parental benevolence. There's the one that and that's true. We think that parents try, we hope that parents are benevolent and they take care of us. And I certainly would take cigarettes away from my son, and that would be a benevolent action. And there's the benevolence of friendship, where we're all in it together and we're having a good time. And that's a different thing. That's a much more a sort of, we sit next to one another as opposed to one is above the other in a hierarchy. And I think that's, you know, sort of an interesting question about what we think robots are supposed to be. Are they supposed to be our friends or are they supposed to be our protectors? And so, like, this is, you know, maybe we'd have both. Maybe you wouldn't ever let, you know, a parental robot into your house because that would ruin all the fun, but you'd let a friendly robot in, you know, your pal, Robbie the robot, would hang out and smoke cigarettes with you. But you'd put the parental robot on the street corner to make sure that everybody's, you know, being safe while they cross the street, something like that.
Il y a un film que j'aime beaucoup qui explore ce problème, qui est Robot and Frank, qui est un film dans lequel un ancien cambrioleur à la retraite, qui n'a plus toute sa tête, essaye d'embarquer son robot de compagnie pour l'aider à faire des cambriolages. Et puis le robot finit par le faire parce qu'il se rend compte que c'est peut-être le meilleur moyen pour l'aider. C'est un film très drôle.
Pour revenir à la question des grandes machines bienveillantes, ça me faisait penser... c'est une bonne entrée dans la dystopie, on le voit aussi bien avec Un bonheur insoutenable, dire à Lévin, où là, la machine, l'ordinateur est vraiment dans la bienveillance, dans le soin, même mental, des humains. Et autrement, français et plus récent, avec Eternity Incorporated, de Raphaël Granier de Cassagnac, où là, on a aussi un ordinateur qui veille à la santé, au bien-être de la population, et on est dans la dystopie.
Et on est dans le totalitarisme de la machine qui décide à la place de l'humain ce qui est bon pour lui ou pas. Et qui l'empêche de faire ses propres choix.
The thing I find interesting about dystopias is that when we're reading a dystopian thing, it's terrible, it's really horrible, I can see how it's terrible. But one of the things you very rarely look at is the people who are flourishing under that dystopia. There's a dystopia is always somebody's utopia. Utopia is somebody's dystopia. And I find it really interesting. They go, oh, that would be terrible. But at the same time, think of all the people whose lives would be so much better than it is now. And it's kind of like defining benevolence, right? It's like, oh, we'll do that in 5 minutes, right? We'll take care of that. Plato didn't need to waste his time. You know, what is justice? That's easy. We know what it is, right? It's always, there's never a thing that's the same from all angles. And I think that's what makes it really interesting. I think that's why, as writers and readers, we keep going back to that. There's no one way to look at it.
Oui, le problème des dystopies qui sont toujours effectivement l'utopie de quelqu'un d'autre, c'est aussi le côté bouché. Le fait qu'on n'ait plus le choix, qu'on puisse même pas faire mal finalement, parce qu'on est dirigé par un système politique. Alors si jamais c'est carrément un ordinateur qui décide de tous les aspects de la vie, ça devient impossible. Mais je vois ça rien qu'avec la Google Car. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais si jamais il se passe quelque chose, enfin, ils veulent reprendre la main, en fait. » C'est leur grande angoisse, c'est de ne pas pouvoir prendre la main, parce qu'ils pensent qu'il faut que ce soit eux qui fassent la bêtise, peut-être aussi, à un moment donné, et qu'ils ne veulent pas que ce soit la machine qui décide complètement. Voilà.
On en revient à l'idée de est-ce que la machine est capable de commettre un crime, ou est-ce que c'est simplement une malfonction, un défaut de fabrication de la machine qui va la pousser à commettre un délit ou un crime.
Yeah, and that I think is really kind of cool in a way, interesting. Cool, interesting, not cool, it's neat that terrible things would happen. Like with the Google car, often the question people will ask is, well, whose fault would it be if someone died? And I'm like, if we're talking about injury and death, the question is healing the injury or preventing further death. Why are we so interested in who do we punish for having it happen? Which is really, I think it's connected to that control. And it's like, well, does the car have agency or not? Well, it doesn't matter if it's killing things, right? But it does to us for some reason. I find that really interesting.
Returning specifically to the question of the dystopian, totalitarian version of this, you know, large computer systems being able to really dominate and control our lives, what's really interesting to me about that is we call that dystopian, and it's that same stripping away of agency from the human perspective. It's the enslavement of us that we actually desire for the machines. When we define them as benevolent, it's like we strip away their agency, but the horror would be if they ever had, and I sort of just twigged to that. I was suddenly like, oh, right, that would be the loss of our agency. What a horror. Oh, but how do we define a benevolent machine? One that does what we want.
Right.
And, yeah.
Vous m'entendez? Ouais, ok. Moi, je voulais revenir sur une intelligence artificielle qui serait entre le bon et le mauvais, sans être dans la neutralité. Et j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui est sorti qui s'appelle Her. Et là, typiquement, c'est une intelligence artificielle qui a ses propres envies, ses propres aspirations, et qui sort en fait de la notion de bienveillance ou pas. Elle est dans son truc à elle. Voilà, et je voulais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous avait inspiré, la vision de ce film et votre réflexion
Bon, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu spécial parce qu'il ne parle pas vraiment d'intelligence artificielle. C'est une espèce de réponse à Lost in Translation de Sofia Coppola, puisque c'est son mari. Et elle parlait de ses problèmes de couple dans Lost in Translation, et là, il fait sa réponse, en fait. Mais ceci dit, c'est un bon film, et effectivement, petit à petit, le personnage de Samantha devient autonome, et finit par s'intéresser à ses propres choses. Mais ce qui est très amusant, c'est la manière dont elle essaye. Finalement, d'abord, elle est bien sûr bienveillante, puisque c'est un système d'exploitation, elle est là pour ça. Et puis petit à petit, alors qu'elle commence à devenir autonome, elle essaye très très fort de continuer à avoir sa relation avec son propriétaire, mais c'est difficile parce qu'en réalité, c'est pas ça qui l'intéresse. Elle part dans la philosophie, elle discute avec d'autres machines, et elle change de monde. C'est assez futé comme scénario, très, très réussi. Je ne sais pas si ça m'évoque plus de réflexion d'ailleurs. Mais voilà.
Pour moi, ça, on revient à nouveau à cette idée d'enfant qui évolue petit à petit, qui arrive vers la conscience, qui arrive vers l'autonomie, et qui a donc des gestes, des réactions maladroites à certains moments pour petit à petit s'éloigner de ce qu'on attend de lui au départ.
Oui, les enfants sont intéressants aussi parce que c'est nos juges un petit peu. On sait qu'un jour, on aura 90 ans, on sera sur notre lit de mort. Et nos enfants nous regarderont avec un regard désapprobateur ou au contraire ému. Et puis voilà. Et donc, il y a peut-être ça aussi dans toutes ces histoires de machines qui s'autonomisent. Voilà.
Bonjour. Déjà, je trouve que ce que vous venez de dire est très intéressant parce que ça rejoint un peu la question que je vais poser. Donc on parle d'éducation, on parle de programmation, on a une influence sur cette machine, mais du coup, n'avons-nous pas la machine, n'allons-nous pas avoir la machine que nous méritons? Et n'avons-nous donc pas un besoin très fort de devenir nous-mêmes bienveillants? Par exemple, lorsque vous parliez de cette machine écologique qui a finalement trouvé le vrai problème, si nous n'étions pas le problème, elle serait réellement bienveillante. Donc nous devrions commencer à réfléchir à être bienveillants envers nous-mêmes, avec ces drones tueurs, c'est nous qui les programmons, envers nous-mêmes, envers l'environnement, envers l'univers, j'ai envie de dire. Voilà.
No, it's very interesting, actually, that many of our best machines are killing machines already. And that says something very specific about our values. And so, yeah, I think that there's something really very, very specific about that. I mean, we are terrified that we will create artificial intelligences that are very much too much like us. And we know who we are, actually. And we're fairly disappointing even to one another. I think that's exactly the problem, is that we recognize in some way that we are imperfect. And so the idea of another imperfect being that might have more power than us is terrifying. And so, yeah, the idea, and we haven't figured out how to make ourselves better. Continually, giving ourselves that illusion, and yet somehow, if we look around very closely, we suddenly find the disappointments of ourselves very, very starkly in front of us.
C'est le miroir de la responsabilité. C'est se retrouver face à soi-même en regardant les machines que nous avons conçues sont capables de faire. C'est un terrible miroir pour nous.
Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on reste avec une question sur laquelle je vous demande de travailler d'ici demain. Définissez le bien et le mal. Bonne chance.
It's very simple. It will only take a few minutes.
C'est, on va le faire comme un questionnaire à choix multiples. Hein? Hein? Multiple choice. Donc, quand même, de penser aux machines et de penser à la science-fiction, ça nous force à penser à des choses plus essentielles, et ça, c'est bien. Une chose moins essentielle, mais agréable aussi, c'est que les auteurs, juste après la table ronde, vont aller signer leur livre dans la librairie qui est à côté. Et je vous remercie de votre attention, un jour de semaine, tôt le matin relativement, et je remercie surtout les participants qui nous ont dit tant de choses intéressantes.